Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
C'est une répétition d'orchestre avec notre chef d'orchestre Jeffrey Milarski et le compositeur John Corigliano qui répète sa pièce.
Et c'est là que je vous emmène dans l'escale reportage d'un jour dans le monde, dans l'antre de la Juilliard School, prestigieuse école de danse, de musique, de comédie à New York. Les plus grands en sont sortis, vous pourrez au moins y rentrer. Sous les radars, on démonte. On démonte, on jette les flingues, peut-être une prise de conscience à les savoir après la fusillade de Floride. 18h50, la carte blanche des correspondants de France Inter. En Italie, à 3 jours des élections, et en Allemagne, avec une antenne de l'équivalent des Restos du Cœur qui ne sert plus les étrangers. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers et veut défendre Theresa May dans son approche du Brexit. Mais d'abord, voilà une votation en Suisse qui nous intéresse grandement. Elle demande aux Suisses s'ils veulent dire non. À la redevance, on y va tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Guten Morgen, das sind unsere Themen jetzt. Großer Verlust, die Credit Suisse macht 2017 fast 1 Milliarde Minus und neuer Skandal.
Ça se passe sur la radio suisse ou peut-être la télé suisse, Vanessa Descoureaux. La radio suisse en allemand, donc vous savez, 3 langues, État fédéral. Ce dimanche en Suisse, un référendum comme la Suisse sait les faire et aime les faire. Une question directe et simple qui donne à réfléchir bien au-delà de ce petit pays, qui nous donne nous à réfléchir forcément, vous qui nous écoutez, fidèle, bienveillant et sévère comme on vous aime. La question suisse, c'est oui ou non à la suppression des redevances radio et télévision. Et pour réfléchir ensemble à ce que ça veut dire, on va y aller en Suisse et puis on ira faire un tour aussi chez nos voisins grâce à vous, Gaëlle Villeneuve, bonsoir.
Bonsoir.
En Angleterre, vous connaissez la BBC sur le bout de vos ongles. Et puis Valérie Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous parlerez de la manière dont fonctionnent les Allemands. Avant cela, Vanessa Descoureaux, bonsoir à vous d'ailleurs.
Bonsoir.
Vous en revenez de Suisse. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment tout ça va fonctionner, comment tout ça marche. D'abord, juste en un mot, le service public en Suisse, les trois pays, enfin les trois morceaux de cet État fédéral, il y a combien de télé, combien de radio, à quoi ça ressemble ?
Le paysage en Suisse, c'est 4 langues pour être très précise, parce que vous avez oublié le romanche, ce qui n'est pas très sympathique, Fabienne. Donc 4 langues officielles dans la constitution de ce tout petit pays de 8 millions d'habitants, effectivement. Et ça représente cette SSR, Société Suisse de Radiodiffusion, 17 chaînes de radio, 6 de télé, mais aussi la redevance. Il faut savoir qu'elle est injectée dans une partie du budget de radio et télé locale privée. Tout ça pour supporter la faiblesse du marché publicitaire, encore une fois, de ce petit pays. Donc voilà pourquoi la redevance aussi est aussi chère, parce qu'on ne l'a pas dit, mais elle est de 451 francs suisses, c'est 390 euros environ. Donc effectivement, nous, ça nous paraît très cher.
À titre de comparaison, hein, nous, c'est autour de 138 euros. C'est pas autour, d'ailleurs, c'est 138 euros.
138 euros pour nous, mais dans le portefeuille suisse, 451 francs suisses, il faut savoir que c'est l'équivalent d'un mois d'assurance maladie dans ce pays qui n'a pas de sécurité sociale, pour voir ce que ça pèse là-bas.
Alors, l'initiative, Vanessa, de supprimer cette redevance, ça démarre comment ? C'est une idée de qui, ça ?
C'est une idée qui part de Zurich, la grande ville de Suisse alémanique, c'est à elle seule 1/8 de la population du pays. Ça part précisément de jeunes qui se qualifient libéraux, on peut même dire libertariens, dans le sens où l'initiative est très précisément née dans un des rares bars où on peut encore fumer. Voilà, c'est pour vous donner un peu l'esprit de ces jeunes gens qui décident un jour, quasiment autour d'une table, quasiment à l'apéro, hein, c'est comme ça que ça commence, hein, véritablement et littéralement, c'est ainsi qu'ils le racontent en tout cas, ils décident de payer uniquement ce qu'ils consomment. À la Netflix, tout simplement. Et ils ne regardent pas les programmes de la télé publique suisse. Donc, de ce fait, ils décident de lancer une initiative pour supprimer la redevance, partant encore une fois du principe synchro-saint dans leur esprit, de ne payer que ce qu'ils consomment. Et c'est ainsi que des jeunes politisés, mais j'insiste sur le fait qu'ils sont politisés effectivement, mais les états-majors des partis politiques, eux, ne soutiennent pas cette initiative. Et c'est ainsi que des jeunes gens, parce qu'il y a vraiment une dimension générationnelle dans ce sujet, arrivent à récolter 100 000 signatures qui sont après ensuite validées par la chancellerie. Il suffit de 100 000 signatures pour ensuite arriver à ce qu'on appelle une votation. Et il y en a 4 par an en Suisse et c'est ce qui va se passer dimanche.
Alors
avec ce cas précis.
Ce qui va se passer, entre-temps, on fait du porte-à-porte, hein. Enfin, ça s'appelle faire une campagne électorale. Et voici ce que ça donne, Vanessa, lorsque ces jeunes-là font du porte-à-porte chez eux.
On s'est fait insulter qu'une seule fois. Donc ça va.
C'est une bonne journée.
C'est une bonne journée, j'ai l'impression. C'est très émotionnel, cette campagne. Ça...
Et là, dans la rue, c'est quel type de réflexion vous entendez, sans aller jusqu'à l'insulte
non, mais typiquement, vous n'avez rien compris, vous êtes des jeunes ignorants ou des jeunes illitis, ce genre de choses. J'ai voté contre, je crache sur votre initiative, des choses comme ça. En soi, ça ne nous touche pas trop, mais bon, c'est vrai que c'est assez remarquable. En tout cas, on a vraiment l'impression que les gens se le prennent personnellement.
À la poubelle, votre histoire.
C'est vrai.
Pourquoi vous voulez supprimer Villag?
Pourquoi vous voulez la garder? C'est ça la question.
Oui. Mais écoutez, réfléchissez un peu. Ça va mettre beaucoup de monde dans la merde, ça. Après, il faudra payer. On payera plus cher encore que ce qu'on paye à Villag. Il faut vite arrêter. C'est trop brusque, c'est trop méchant.
Oui, mais vous savez, la question, monsieur, c'est pas de savoir le prix ou quoi que ça, c'est l'histoire de... On n'a pas le choix. C'est on paye, qu'on consomme ou consomme pas.
Vous allez mettre une chienne monte sur la paille. Mais oui, vous allez mettre du monte sur la paille au chômage.
On ne demande pas la fermeture.
Mais c'est ce qui va arriver. Vous voulez qu'ils fassent comment après? Où ils vont prendre l'argent?
Passez une belle après-midi, monsieur.
Non, mais bon, quand même, réfléchissez un peu avant de faire... Je sais bien que vous êtes jeune et tout.
Passez une bonne journée, monsieur.
Au revoir.
Au revoir.
Ça se résume à une guerre des anciens contre les modernes ou pas,
c'est
Vanessa?
C'est pas que ça, mais il faut vraiment cette grille de lecture. Il faut vraiment ça pour comprendre, parce que ces jeunes gens disent « Mais moi, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio publique. » Mais à l'inverse, ils disent « Mais par contre, j'ai regardé le journal de Darius Rochebain, donc la star de la télé suisse, sur YouTube. » Comme si YouTube donnait les informations. Non, c'est un tuyau qui envoie les informations, mais qui ne fabrique pas les informations. Donc tout ça est très, très, très confus.
Et restez avec nous, Vanessa, parce qu'on va revenir à la Suisse. Gaëlle Villeneuve, moi, j'aimerais bien votre point de vue quand on regarde ça. Est-ce qu'on trouve des similitudes, parce qu'on sait que la BBC a fait un énorme Big Bang, à un moment on y reviendra. Est-ce qu'il y a des similitudes dans ce qu'on vient d'entendre? Est-ce qu'il y avait au moment du Big Bang une espèce de guerre effectivement entre les anciens et les modernes, la vieille BBC trop vieille, il faut mettre un coup de pied dans cette fourmilière là, et puis les autres qui y tenaient? Est-ce qu'il y a eu ce genre de discours?
Ben, il y a quelques années, quand j'ai fait ma thèse, j'ai été accueilli par un Anglais très sympathique qui aime bien la France, qui aimait bien faire courir sa voiture aux 24 heures du Mans sur les temps. Enfin, il venait assister aux 24 heures du Mans, montrer sa belle voiture, donc assez francophile. Et j'ai assisté à cette discussion à table avec son fils. C'est intéressant, et effectivement, on avait le vieux qui était bien d'accord pour payer et le jeune qui était d'accord pour rien payer du tout. Enfin voilà, au-delà de ça, je pense qu'on fait pas une réforme du service public sur ce genre de discussion.
Et en Allemagne, Valérie Robert, sachant que le système est complètement différent, il y a une prise, j'allais dire, des Länder, donc des provinces, on va le dire, pour aller vite, en Allemagne, qui existe moins évidemment en Suisse et moins aussi chez nous d'ailleurs. Est-ce que là aussi, il y a une discussion qui tourne autour de ça ou pas du tout?
Il y a une discussion autour de l'audiovisuel public, en particulier cette dernière année, mais ça tourne. Alors, ça tourne sur la redevance, mais pas sur son existence même, mais sur ses modalités. C'est-à-dire qu'on est passé, il y a quelques années, à une redevance qui était due quand on possédait un appareil de radio, un appareil de télé, à une redevance qu'on pourrait appeler une redevance universelle, qui est par foyer, et qui touche aussi toutes les entreprises, les églises, les écoles, etc. Et
tous les appareils, c'est ça l'idée, non?
Qu'on ait un appareil ou pas.
C'est ça, qu'on ait un appareil ou pas.
Donc, voilà, qu'on consomme ou pas, on paye. Et c'était pour éviter justement de devoir taxer par exemple les ordinateurs. Pour sortir de cette question-là, on est passé à ce système de redevance universelle qui est extrêmement contesté. Qui là vraiment a précipité l'audiovisuel public allemand dans une espèce de crise de légitimité. Il y a eu des procès dans tous les sens. Pour le moment, tous les critiques ont perdu les procès, mais la question est arrivée maintenant devant la Cour constitutionnelle fédérale qui va se pencher dessus ce printemps pour voir si c'est compatible avec la Constitution que tout le monde paye cette redevance.
Et là aussi, on va donner des chiffres, hein, puisque Vanessa parlait de combien? 451 francs suisses, vous disiez.
Absolument.
C'est ça?
Soit 390 euros.
Voilà, 245, c'est ça, autour de ça?
Euros. 210.
210, ouais, pardon, 210 pour la redevance allemande, ouais. et pour les Anglais
ça dépend du cours du livre, enfin, en ce moment ça fluctue, mais on est autour de 150-160 euros. Ouais.
Et il y a autre chose qu'il faut peut-être noter, chez les Suisses notamment, une grosse part de cette redevance sert uniquement à financer la télé et la radio suisse. Chez les Anglais par exemple, 53% seulement, et c'est aussi une vraie différence. Il y a beaucoup de choses qui se vendent par ailleurs à la BBC, ce qui n'est pas le cas dans plein de services publics autour de nous.
Ah bah oui, alors il y a un système, enfin c'est assez particulier. Hein,
il y a des contenus quoi.
Oui, et puis il y a le BBC World Service qui est une filiale commerciale qui vend les programmes à l'étranger, qui vend le site internet qui marche très bien. C'est un gros problème de critiquer la BBC sur son efficacité. Elle bat la CNN ou bien Sky News, la télé privée anglaise sur pas mal de secteurs. C'est un concurrent sérieux et c'est assez efficace. Et du coup, c'est pas le vieux mastodonte grisaillou qu'on aimerait.
C'est pas ou c'est plus en fait depuis le grand Big Bang. on va quand même rappeler quelques chiffres. Il y a eu combien? Presque 20 000 suppressions de postes. C'est pas fini. D'ailleurs, ça a été très long. Ça a été une vraie refonte intégrale, y compris des productions, y compris de tout ça.
Oui, depuis 2004, en fait, la BBC a été divisée par deux. Mais en fait, il ne faut pas imaginer qu'on a supprimé un personnage sur deux. C'est en fait, il y a des pans entiers de la BBC, l'équivalent de nos studios de la Butte Chaumont, par exemple. Mm-hmm. Des régies qui faisaient les décors, etc. Ils ont externalisé pas mal de choses, mais ils ont gardé le noyau et surtout ils ont gardé l'information à laquelle ils sont très très attachés et qui est un produit qu'ils vendent assez bien.
Vanessa, dans les reportages qu'on a pu entendre ces derniers jours, on a vu que ça avait beaucoup fluctué en Suisse. Au début, on a l'impression que tous les Suisses se sont dit, après tout, effectivement, pourquoi pas, cette redevance, elle nous coûte cher, supprimons-la. Et puis doucement, les choses sont parties dans l'autre sens.
Bah parce qu'au tout début, c'est-à-dire à la toute fin de l'année dernière et tout début de cette année, la campagne se résumait à pour ou contre une taxe. Et honnêtement, on est plutôt contre les taxes. Dans le sens où la campagne est extrêmement simpliste parce que menée par ce parti populiste conservateur, pour le dire très gentiment, de l'UDC, qui est le seul à s'être investi vraiment dans cette campagne. Autant les deux gros partis, on va dire droite-gauche traditionnelle républicaine, se sont opposés à cette suppression, autant l'UDC a mis beaucoup d'argent dans cette campagne. Et l'UDC est connu pour faire des campagnes simplistes. L'UDC, c'est celui qui a gagné la votation autour des minarets, par exemple, pour vous donner une idée. Donc la campagne était si simpliste qu'à un moment, bah, effectivement, non, je suis contre une taxe. Et puis après, on est arrivé dans le cœur du problème. Oui, c'est cher, mais voilà ce que ça représente. Et puis, le Conseil fédéral a compris que l'argument financier était important et a décidé dans la foulée de baisser la redevance dès le 1er janvier 2019, au cas où elle serait maintenue bien évidemment, baisser de 20% et elle passerait à 365 francs suisses, l'argument publicitaire étant 1 franc par jour.
Voilà, ça veut dire qu'avant même la votation, on a déjà décidé de faire tomber le prix de la redevance. La clé, Valérie Robert, entre la balance entre l'autonomie financière d'un côté, la dépendance de l'État ou l'indépendance vis-à-vis de l'État de l'autre, c'est toujours la clé dans ces questions-là. Est-ce qu'en Allemagne, on a réussi cette quadrature du cercle, selon vous ?
C'est compliqué. Si vous demandez à des journalistes allemands, ils vont vous dire que par rapport à la France, oui, on a réussi. Effectivement, c'est relatif. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en Allemagne...
C'est intéressant, ça veut dire qu'ils considèrent que nous, en France, le service public est inféodé à l'État, en gros.
Absolument. Ouais. Ah oui, ça c'est très clair. Mmh. Bah, disons que c'est vraiment central pour l'identité des journalistes allemands de se dire qu'ils sont pas dépendants de l'État. Ça, depuis 45, c'est vraiment absolument fondamental pour leur identité. Et c'est effectivement ce qu'on a essayé de faire après 45, ce que les puissances d'occupation ont essayé de faire. Après 12 ans de dictature pendant laquelle donc tous les médias étaient au service de l'État, l'idée c'était d'établir un maximum de distance. Sauf que les politiques allemands l'entendaient pas comme ça, et donc finalement on a trouvé une espèce de solution de compromis. Où donc on a l'audiovisuel est régionalisé, ça c'est une première chose, il dépend des lenders. Il n'est pas dépendant directement de l'État, il est gouverné par des conseils et ces conseils sont composés de représentants des groupes importants pour la société.
Voilà. Ça veut dire qu'il y a personne qui chapeaute tout au-dessus ?
Absolument pas. Mais par contre, bon, les groupes importants pour la société, c'est qui ? Et ça, selon chaque land, en fait, c'est le Parlement qui les désigne. Donc il y a quand même, si vous voulez, l'État qui intervient en un sens. Mais par exemple, l'État ne nomme pas les directeurs. Ça, absolument pas. Et l'autre chose importante aussi, c'est que, par exemple, l'État ne peut pas fixer le montant de la redevance. Déjà, l'État fédéral ne peut pas. Et la redevance n'est pas un impôt. Ça, c'est vraiment fondamental. L'audiovisuel public ne peut pas être financé par un impôt parce que ça induirait une dépendance. Et donc, il y a une commission indépendante qui fait une proposition. Et cette proposition, ensuite, doit être adoptée par tous les parlements régionaux. Donc, ce qui fait que, certes, c'est les parlements qui la décident, mais ils sont tous de couleurs politiques différentes. Donc, il faut qu'ils se mettent d'accord sur quelque chose. Ce qui fait qu'on estime que, bon, quand même, l'influence de l'État n'est pas énorme là. Mais il y a quand même une influence officieuse, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, un système de répartition des postes par grand parti, quand même. Voilà, ça existe, mais c'est officieux. Voilà. Mais dans les textes, en tout cas, l'État n'intervient pas.
Il y a beaucoup de choses officieuses.
Des choses officielles en France.
Absolument. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un, en l'occurrence, qui s'appelle Philippe Motas. Vanessa, vous m'arrêterez si je me trompe. C'est l'ancien directeur de l'information de la radio-télé suisse, c'est ça ?
Absolument.
Qui dit une chose extrêmement importante, qui parle de vote d'époque. Et je pense que là, ça nous parle à nous. Ça parle aux Anglais, précisément. Aux Allemands, peut-être aussi. Écoutez ça.
Ça n'a rien de suisse. C'est exactement ce qui est en train de se passer, globalement partout, avec la montée du populisme, je dirais philosophiquement, cette initiative est effectivement dans la lignée de ce que les Brexitaires ont fait en Angleterre, de ce que certains font aux États-Unis et assurément qu'on voit se passer en Europe et dans des pays européens. cette initiative charrie toute une série, disons, de ce qu'on pourrait appeler de tendances assez lourdes de la société aujourd'hui. La première, c'est l'absence de crédit donné à l'institution même, à la parole institutionnelle. Quand la SSR dit, écoutez, on a vraiment un problème, parce que si vous le faites, ça va vraiment se passer, de la même manière que, encore une fois, pour revenir au Brexit, on disait, mais attendez, si ça va se passer, il va y avoir des conséquences et des dégâts, on ne les croit pas. C'est un vote d'époque, hein, on est dans la manifestation de symptômes de l'époque.
Le symptôme de l'époque, Gaël Villeneuve, il faisait la comparaison avec le Brexit, c'est une comparaison plutôt intéressante, la défiance vis-à-vis des institutions qui est partout, et donc là aussi en fait.
Mais alors ce qui est intéressant, c'est, j'écoutais, bon, c'est... Mais il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Mm-hmm. Ce que je trouve intéressant, c'est justement que le gouvernement conservateur, aujourd'hui, vis-à-vis de la BBC, essaye la tendance inverse. C'est-à-dire qu'il essaye de dire, eh bien, écoutez, on va justifier l'impôt, en l'occurrence mm-hmm. la redevance, en faisant des gens de la BBC des public servants, c'est-à-dire en gros des employés de l'État. C'est-à-dire qu'on est un peu sur l'inverse du modèle allemand. C'est-à-dire que récemment, par exemple, le ministre de la Culture a été dans les médias pour dire que c'était un scandale et que certains correspondants de la BBC à l'étranger gagnaient davantage qu'un ambassadeur britannique. Or, c'est un scandale puisque les journalistes de la BBC sont des public servants, ils sont payés avec l'argent public et donc ils doivent, on va dire, en gros, il y a le but des conservateurs est quand même d'essayer d'étatiser, de garder sous contrôle, parce que la BBC est assez indépendante, le board ne dépend pas du ministère de la Culture, hein, mmh. directement. Et donc, en fait, face à ce populisme un peu, ils essayent en quelque sorte de dire aux gens, écoutez, ça va, continuez à payer vos impôts, c'est des genres d'ambassadeurs. De la culture anglaise, ce qui ne va pas du tout aux journalistes de la BBC, évidemment.
Valérie Robert, sur ce vote d'époque, est-ce que c'est quelque chose qui résonne aussi chez les Allemands, selon vous ?
Oui, absolument. Il y en a quand même vu ces dernières années la montée d'un parti qui, au départ, qu'on pouvait considérer comme eurosceptique, qui s'est transformé progressivement en parti populiste de droite, voire néo-nazi, parce que mm-hmm. l'évolution ces derniers temps, c'est très très net, l'alternative pour l'Allemagne, mm-hmm. et ce parti... bien évidemment, veut supprimer la redevance et bien évidemment également voudrait privatiser les instituts de l'audiovisuel tels qu'ils existent maintenant, en créer de nouveaux qui soient financés par l'impôt et directement dépendants de l'État. Donc la dépendance par rapport à l'État, c'est pas bien quand c'est les autres, mais si c'était eux, ça leur irait très bien par contre.
Est-ce que ça veut dire, et ce sera une question pour chacun d'entre vous et pour finir, que cette votation suisse finalement, quel que soit le résultat, donne une sorte d'avant-après quand même dans le service public, parce qu'il y aura un marqueur à un moment, on a essayé en tout cas de supprimer intégralement la redevance, Valérie Robert ?
Oui, ça me paraît évident, on en discute énormément en Allemagne depuis assez longtemps, dès les premiers frémissements, avec effectivement on observe ça avec beaucoup d'attention.
En Angleterre aussi ?
C'est-à-dire qu'en Angleterre, la BBC est complètement coincée. Ça fait des années qu'on lui demande de faire plus avec moins. Alors, des fois, le talent a ses limites. Et effectivement, si le Brexit produit des catastrophes économiques à l'intérieur, ça va être de plus en plus difficile de justifier la redevance. Et on ne sait pas comment ça va se passer.
La votation en Suisse, en tout cas, que tout le monde regarde donc en Europe avec beaucoup d'attention, c'est dimanche. Merci beaucoup à tous, Vanessa, pour écouter le reportage sur la Suisse, justement. Et sa votation, c'est dimanche dans Interception, 9h10 sur France Inter, merci à tous.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en visite dans la prestigieuse Juilliard School de New York. C'est elle qui a formé les plus grands musiciens, les plus grands acteurs de l'époque sous les radars. Et Julie Pietri, avec une manière très particulière d'inciter les Russes à voter et des mots doux entre Keith Richards et Mick Jagger, assure aussi la carte blanche des correspondants de France Inter. Ça va se passer à Berlin et en Italie. Et puis Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Ce soir, vous voulez sauver le soldat Theresa May alors ?
Exactement. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On a prononcé le mot Brexit à l'instant. Ça chauffe sur le Brexit. Theresa May est montrée du doigt. Je vais essayer de jouer les Saint-Bernard et d'essayer de sauver Theresa May.
Eh bien écoutez, vous venez tout à l'heure pour nous le raconter. Il sera 18h55 et puisqu'on parle des British, restons-y. Voici Noël Gallagher sur France Inter. If love is the law.
Love has been gone. I'm waiting for the storm to come back.
Noël Gallagher sur France Inter. If Love Is The Law, sous les radars, et Julie Pietri, c'est maintenant.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Actualité internationale passée sous les radars des premières de couverture. On commence avec des femmes nues, Julie, pour inciter à aller voter. Et ça se passe en Russie.
La présidentielle du 18 mars manque un petit peu de suspense. Il y a un candidat qui s'appelle Vladimir Poutine et qui a, paraît-il, toutes ses chances. Mmh. Alors les Russes tentent de trouver une manière d'exciter la curiosité, le désir des électeurs avec des femmes, des créatures sculpturales qui posent en string et talons hauts dans l'isoloir, couchées sur les tables où devront signer les électeurs. Tout autour d'elles, des ballons aux couleurs du drapeau russe. Sur l'urne, il est écrit « Bienvenue dans le monde des adultes ». Des photos circulent sur les réseaux sociaux, des mini-films et un magazine masculin a mis en ligne une vidéo à la douce musique visionnée plus d'un million de fois. Il y a un commanditaire, un partenaire derrière tout cela, mais qui, sur son site Courrier International, relaie les questions de médias russes sur l'origine d'une autre vidéo visionnée là aussi par des millions de personnes.
Pop.
C'est aussi un clip qui incite les électeurs à aller voter. Sans Poutine, voilà ce qui pourrait se passer. C'est un petit peu l'idée du film. On suit un homme qui, du jour au lendemain, découvre dans sa cuisine un jeune homme homosexuel qui mange une banane avec un regard suggestif et lui explique que désormais, chaque famille russe devra accueillir un homosexuel chez elle. Là, c'est donc l'homophobie, le racisme aussi qui sont utilisés. Le pouvoir cherche à booster le taux de participation à la présidentielle par des moyens inhabituels, analyse une radio russe.
Inhabituel, oui, comme vous dites.
Quand un éditorialiste du site République avance, essayer de deviner qui a commandé la vidéo, la commission électorale ou le QG de Vladimir Poutine, ça n'a aucun sens. Le scénario et le budget ont été validés dans les cabinets du Kremlin. Ce cinéma a été tourné pour nous, par le pouvoir. Le taux de participation reste en fait la seule inconnue du vote du 18 mars. L'opposant numéro 1 de Navalny, déclaré inéligible, a appelé à ne pas participer.
Ben, on y sera d'ailleurs, nous, à Moscou, avec Un jour dans le monde pour ces élections. Aux États-Unis, Julie, peut-être que des choses bougent un peu. Des Américains se filment en train de détruire leurs armes.
Et leurs vidéos sont diffusées également sur les réseaux sociaux avec le hashtag One Less, un de moins. C'est assez récent. Le mouvement a commencé après la fusillade du lycée de Parkland en Floride, 17 morts. Cette femme, Amanda, explique qu'elle n'est pas une activiste ou rien de ce genre, juste la propriétaire d'une arme qui se trouve dans son garage. Je vais vous la montrer dans une minute. J'aime beaucoup ce pistolet, dit-elle. Mais vous savez ce que j'aime encore plus? Que personne ne se fasse tuer. Elle habite non loin de Parkland. Son frère s'est suicidé avec une arme de ce genre. Elle se dirige donc vers son garage. Et la voilà qui se débarrasse de la sienne d'arme en la découpant en petits morceaux avec une sorte de scie électrique pour ne pas avoir à la vendre et prendre le risque de la voir atterrir ensuite entre les mains d'un tueur de masse. Ce n'est qu'un exemple des vidéos qui circulent en ce moment et qui sont relayées par les médias américains.
Allez, un petit mot très romantique des Rolling Stones pour terminer.
Et des excuses de Keith Richards à qui ? À Mick Jagger, parce qu'il avait suggéré dans la presse que Mick étant un chaud lapin, il était temps pour lui de penser à la vasectomie. Tu ne peux plus être
élégant.
Père à ton âge, pense à ces pauvres enfants. Jagger a 73 ans, il est 8 fois père. Son dernier enfant a un petit peu plus d'un an maintenant. Les Stones repartent en tournée en Europe le 17 mai. Ça commence par Dublin avec étape à Marseille. Ce sera fin juin.
Allez, merci beaucoup Julie Pietri sous les radars sur France Inter.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Il suffit d'entendre ce bruit pour savoir où nous sommes, les sirènes, ça fait partie de la magie. Bienvenue à New York, bienvenue. Et profitez-en parce que je vous emmène dans un lieu très particulier de New York, un lieu mythique, un lieu où ont été formés Philip Glass, le compositeur, René Fleming, la soprano, Leonard Bernstein, Maria Callas, Pina Bausch, la chorégraphe, Viola Davis, la comédienne. Bienvenue dans les murs de la prestigieuse Juilliard School. Et bonsoir à vous, Laurent Vallière.
Bonsoir, Fabienne.
Vous avez de la chance, c'est rare d'entrer dans ce temple-là, et vous allez donc nous le faire visiter.
On est au cœur du quartier artistique de New York, Fabienne, à deux pas du Metropolitan Opera, des grandes salles de concert de l'Orchestre Philharmonique de New York ou du New York City Ballet. C'est un bâtiment flambant neuf, en béton, en verre, qui donne sur la grande artère de Broadway. Et la première fois qu'Hugo Abraham, étudiant en seconde année de musique ancienne, y a mis les pieds, ça l'a ému.
Toujours assez impressionnant, je trouve que toute la place avec la fontaine et l'opéra et le concert hall. Quand même l'architecture en elle-même est assez impressionnante, je trouve.
Is it orchestra rehearsal?
C'est une répétition d'orchestre avec notre chef d'orchestre Jeffrey Milarski et le compositeur John Corigliano qui répète sa pièce.
Cinquième étage, salle 453. Ce matin, c'est donc répétition. Une cinquantaine d'étudiants de la Juilliard School of Music répètent devant le compositeur son concerto pour violon pour une prochaine représentation. Parce que c'est l'une des particularités de la Juilliard School. Les 840 étudiants se produisent régulièrement. Plus de 700 représentations par an ouvertes au public, aux professionnels, en musique, en théâtre et en danse. Maximilien Morel est né à Paris, il a 23 ans, il entame sa 7e et dernière année à la Juilliard. Rien que pour faire partie d'un concert à venir, c'est compétitif.
Par exemple, il y a un orchestre en général, ça peut être, ça dépend des pièces d'orchestre, il peut y avoir une soixantaine de musiciens, donc sur une soixantaine de musiciens, il y a en général deux ou trois trompettistes. Mais on est une douzaine de trompettistes à la Juilliard, donc du coup ça tourne. C'est pas toujours les mêmes qui jouent. Et il y a des concerts qui sont plus intéressants que les autres, des positions qui sont plus intéressantes. Par exemple, là, il y a un concert qui arrive en mars, Carnegie Hall. Ça, c'est un concert assez important. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent une audition de placement à l'orchestre au début du semestre. Et ensuite, on est classé de 1 à 12 et en fonction du résultat du placement, on a des placements qui sont plus ou moins bien à l'orchestre.
Be ready for my speed here and make sure that we're connecting a little bit more. 59, 60, 61. 61, please. 61. Hello.
Hello.
I'm sorry.
La Juilliard School a été créée il y a 112 ans par un philanthrope américain qui voulait copier les conservatoires de musique européens qui n'existaient pas en Amérique à l'époque. Grande différence quand même, l'école ne bénéficie d'aucune subvention. Le capital de l'école se monte à 1 milliard de dollars et les frais de scolarité pour chaque étudiant sont élevés, 38 000 dollars par an. Mais 90% des étudiants bénéficient de bourses de montants très variés. La scolarité aussi est différente. Benjamin Sausselin est directeur administratif du département de musique ancienne.
Les étudiants doivent aller aux classes et ce n'est pas facultatif comme en France. Ils sont là pour les étudiants, pour les jeunes, pour les bachelors pour 4 ans, pour les masters pour 2 ans et c'est full-time. Donc ils sont ici pour la plupart sans faire autre chose. C'est le centre de leur vie pendant ces années. Et nous sommes un peu plus stricts, je crois, que les conservatoires européens.
Hugo a 27 ans, il vient d'Angers, c'est sa seconde année à Juilliard. Il perçoit d'autres différences avec les conservatoires en France, une autre vision en fait de l'enseignement.
Je trouve que le système d'éducation ici produit quelque chose de plus inclusif. L'élève ne rentre pas chez lui, enfin ne va pas au conservatoire pour prendre un cours et puis rentre chez lui et puis travaille. On est au conservatoire presque tous les jours, toute la journée. On travaille ici. Par exemple, je travaille aussi à la bibliothèque et je m'occupe de mettre en place les répétitions, les choses et tout ça. Donc, je passe vraiment le plus grand de mon temps ici, à l'école. Et quand j'étudie à Paris, il y avait quand même quelque chose d'un peu plus distant où il y a un grand maître, on va voir, au conservatoire et qui nous donne cours et c'est peut-être moins inclusif d'une certaine manière, même si ça c'est bon et c'est mauvais côté. Mais
everything that Shakespeare wrote is on the
tout ce qui a écrit Shakespeare est sur ce papier peint. Approchez-vous, regardez tous ces mots. Quel acte? Acte 2, acte 1,
acte 2, King John, acte 1.
On descend à la danse.
We're going to go down to the dance section next.
Okay.
Ready, get your pasta. Ready, act.
La Juilliard School offre 3 filières. À la musique, à l'origine, se sont ajoutées la comédie et la danse. Ce qui frappe dans les couloirs, c'est le calme qui règne. De part et d'autre, des dizaines de petites cellules avec piano, où un violoniste ou un pianiste peut répéter seul ou devant un professeur. Ou encore les étudiants, Walkman sur les oreilles, assis sur les canapés en train de relire leurs partitions. Un niveau d'exigence qui impressionne le comédien français Jean-Luc Guizonne, qui fera partie de la distribution de Chicago l'an prochain au Théâtre Mogador à Paris.
au cœur de l'excellence. Ouais, ouais, il y a cette espèce de rigueur qui se sent d'ailleurs dans les murs. Hein. Les murs respirent cette rigueur. On est loin de l'ambiance fame où ça chante, ça danse dans les couloirs. On improvise des chorégraphies, on improvise des chants ou autre. On est vraiment sur quelque chose de, voilà, de très strict. Et ben, ma foi, c'est bluffant.
On n'est pas dans Fame, comme le confirme Joseph Polizzi. Il a dirigé durant 33 ans la Juilliard School. C'est lui qui a introduit le jazz à l'école.
Non, Fame, il n'y a pas beaucoup de monde qui danse sur la table à Juilliard. No. Le secret, pas de secret, mais comme j'ai dit en anglais, we're as good as our last performance. C'est-à-dire qu'on travaille toujours, toujours. Après chaque concert, on recommence le matin. Et c'est toujours comme ça, toujours comme ça.
Aujourd'hui, 40% des étudiants à la Juilliard sont étrangers, surtout asiatiques. Il y a peu de Français, 2 ou 3. Pour Maximilien, qui termine ses études à la fin de l'année, l'école Juilliard, en fait, n'est pas un sésame.
Sur le papier, pas vraiment, parce que quand au moment de l'audition, les gens ils regardent pas forcément quelles études on a fait. Le plus important c'est comment on joue.
Et pour lui, ça sera audition, alors soit pour un ensemble à Carnegie Hall, là en juin, ou alors à Paris, à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, il y a un poste de deuxième trompette, il est prêt.
Ah bah écoutez, formidable, comme ça on le retrouvera à la maison. Merci beaucoup Laurent Vallière. Je remarque que vous avez dit Walkman tout à l'heure. Laurent, ça a trahi complètement votre âge, c'est terrible. Merci pour cette visite guidée de la Juilliard School de New York dans Un jour dans le monde, et vous revenez bien sûr quand vous voulez.
France Inter, Un jour dans le monde.
Et dans Un jour dans le monde, les correspondants, le rendez-vous avec les correspondants de France Inter, la carte blanche des correspondants. Bonsoir Rome d'abord, et bonsoir Mathilde Amberti.
Bonsoir à tous.
Mathilde, vous avez choisi de nous éclairer sur votre campagne électorale à vous, puisque c'est dans bientôt J-3. On commence par le coup de force des 5 étoiles.
Eh oui, ça ne vous a pas échappé, Fabienne, les élections n'ont pas encore eu lieu. Mais l'Italie, comme par magie, a déjà un nouveau gouvernement. Un gouvernement 5 étoiles, 100%. Le président du Conseil, c'est Luigi Di Maio. Les ministres sont 18. Di Maio, en effet, envoyait sa liste de ministres au président de la République. Alors, petit souci, outre le fait que les Italiens n'ont pas encore voté, cette initiative politique n'a aucune valeur. Rappellent les experts dans les colonnes des journaux. Aucun parti n'impose une liste de ministres au président de la République qui tranchera en fonction des équilibres au Parlement. Le système est fait de compromis, de tractations, d'écoute, rappelle le Corriere della Sera, quoi qu'en disent les 5 étoiles. Alors que cherchent les 5 étoiles donc avec ce coup de force? Jouer la transparence, assure Luigi Di Maio sur le refrain. Au moins avec nous, les Italiens savent qui les gouvernera, contrairement aux autres partis qui magouilleront après le 4 mars.
Voilà, donc la bonne ambiance 3 jours avant, Mathilde. Les partis abattent leurs cartes, on a compris, Silvio Berlusconi aussi.
Enfin, oui, Berlusconi lâche le nom de celui qui serait son président du Conseil si son parti Forza Italia était appelé à former le gouvernement. Le Cavaliere a choisi Antonio Tajani, l'actuel président du Parlement européen. Il l'a dit sur la RAI hier, la télé publique, à condition, c'est le pacte conclu avec la Ligue, que Forza Italia soit bien le premier parti de la coalition des droites.
Et un Berlusconi en tout cas qui apparaît bien en forme, Mathilde, surtout dans une certaine presse.
Oui, comme le note Il Fatto Quotidiano, historiquement très anti-Berlusconi, l'éditeur Mondadori se met à genoux pour Berlusconi. Mondadori, pourquoi? Eh bien, la présidente de ce groupe n'est autre que Marina Berlusconi, la fille d'eux. Alors, dans l'hebdo qui, la revue People de Mondadori, vous avez 11 pages consacrées au candidat âgé de 81 ans, qui a le lire pour se maintenir en forme, mange beaucoup de fruits, ne boit que de l'eau, du thé, des tisanes. Un saint se moque Il Fatto Quotidiano, qui chaque jour téléphone à chacun de ses 5 enfants. Silvio Berlusconi, qui considère, selon l'un de ses récents tweets, qu'il est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge.
Allez, le ton monte donc, mais pas de gants de boxe à la télé pour départager les uns et les autres ou pas?
Alors non, ça c'est une particularité italienne. Depuis 2006, plus de débats à la télé entre les différents candidats, précisément parce qu'il n'y a pas de candidat chef de gouvernement en Italie en tant que tel. Et puis, les Italiens élisent des députés, des sénateurs, selon le poids des partis, c'est assez complexe, hein, c'est le président de la République qui charge un chef de gouvernement. Ça c'est la première raison. Et puis en fait, comment on choisirait celui qui parlerait au nom de l'extrême droite? C'est la guerre des leaders actuellement entre Matteo Salvini et Giorgia Meloni. Idem à gauche, qui fait débattre, Matteo Renzi, Sarkozy, le chef du Parti démocrate, ou Paolo Gentiloni, l'actuel président du Conseil. Voilà, ce serait un vrai casse-tête, ce débat télé. Donc ça arrange tout le monde. Il n'y a pas de débat de télé entre les différents candidats en Italie.
Et ben voilà, comme ça on est averti. Mathilde Imberti à Rome, merci beaucoup. Puis à lundi surtout, Mathilde, sans doute, pour évidemment parler du résultat du vote. Bonsoir Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Direction l'Allemagne donc avec vous, avec cette histoire qui fait beaucoup parler chez vous, Cyril. Une association caritative, un peu l'équivalent de nos Restos du Cœur, depuis le début de l'année, a décidé de ne plus distribuer d'aide alimentaire aux étrangers.
Et ça se passe dans la ville d'Essen, dans la vallée de la Ruhr. L'antenne locale de la Tafel, l'équivalent allemand donc des Restos du Cœur, a pris cette décision très controversée début janvier face à l'augmentation du nombre de demandeurs étrangers. Il serait 75% contre 40% auparavant. Et bien, il faudra désormais présenter une pièce d'identité allemande pour devenir bénéficiaire. Les bénévoles affirment qu'ils ne s'en sortent plus. Ils prennent déjà en charge près de 2000 familles par semaine. Et d'après leur patron, Jörg Zartor, qui est devenu en quelques semaines une sorte de célébrité en Allemagne, les autres bénéficiaires, et notamment les personnes âgées, n'osent même plus venir chercher de l'aide à cause des bousculades, à cause de l'agressivité dont feraient preuve certains étrangers, des propos qui font scandale. On l'accuse de discrimination, de faire le tri entre les bons et les mauvais pauvres. Les locaux de la Tafel ont même été vandalisés, tagués avec l'inscription nazie.
Et du coup, Cyril, les politiques s'en mêlent, jusqu'à Angela Merkel d'ailleurs elle-même.
La chancelière a pris position en début de semaine pour critiquer cette décision, mais elle se retrouve brocardée en retour, notamment par le chef du Parti libéral, Christian Lindner, qui déclare dans la Frankfurter Allgemeine, au lieu de critiquer, Madame Merkel ferait mieux de proposer son aide. Car ce que révèle cette affaire, c'est deux choses. D'abord, l'augmentation alarmante de la précarité. Les associations caritatives sont en première ligne et elles ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Et ensuite, la part très importante de migrants là-dedans. La chancelière est donc montrée du doigt. C'est avant tout l'échec de sa politique, de son gouvernement. Comme l'écrit le quotidien berlinois Der Tagesspiegel, dans l'esprit de beaucoup d'Allemands, le slogan d'Angela Merkel pendant la crise des réfugiés, Wir schaffen das, nous allons y arriver, s'est transformé en Ihr schafft das schon. En gros, débrouillez-vous. Si cette affaire doit servir à quelque chose, conclut le journal, c'est pour dire, ça ne peut plus durer comme ça.
Cyril, une toute dernière chose avec vous, ce coup d'éclat, pour le moins inattendu, d'une élue d'extrême droite à Berlin.
C'est la Tageszeitung qui rapporte l'histoire. En pleine réunion à la mairie de quartier de Schöneberg à Berlin, Nina Wittmann, c'est son nom, conseillère municipale de l'AFD, du parti d'extrême droite, a fait son coming out pour révéler son changement de sexe. Maintenant, appelez-moi monsieur, a-t-elle lancé. Elle se nomme désormais, ou plutôt il se nomme Nico Wittmann, et ses collègues, paraît-il, ne l'avaient pas vu venir.
Allez, Cyril Sauvageau, merci pour tout à Berlin. La carte blanche des correspondants dans Un jour dans le monde sur France Inter. Jean-Marc Fourella.
Le 18-20. Fabienne Synthès sur France Inter.
Vous me le confirmez, Jean-Marc, vous êtes bien là.
Absolument.
La tension est montée d'un cran, Jean-Marc, ces toutes dernières heures dans le dossier Brexit entre les Européens et Londres. Un bras de fer qui s'intensifie. Michel Barnier, le négociateur en chef des Européens, a rendu un premier document qui somme les Britanniques de se décider. La réponse de Theresa May, on l'attend, ce sera demain, un discours très attendu. Theresa May qui est montrée du doigt dans cette affaire. Mais vous, dans le monde à l'envers, vous dites, attendez, au contraire, peut-être qu'il faudrait sauver le soldat Theresa May.
Je vais vous montrer quelque chose ici en studio, et vous pourrez aussi bien sûr le retrouver sur franceinter.fr. C'est la une du magazine britannique The Economist il y a un an. Le Premier ministre en britannique, en portrait noir et blanc avec ce gros titre, Theresa Maybe. Jeu de mots facile sur le nom de famille, Theresa May, c'est Theresa Maybe. Theresa, peut-être, comprenez, elle ne sait pas ce qu'elle veut, un coup c'est oui, un coup c'est non. Eh bien, on en est toujours là. Nous sommes désormais à un an de la date fatidique, fin mars 2019, et les Européens reprochent à Theresa May de tergiverser sur le statut des services financiers, sur la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, sur la durée de la période de transition jusqu'à la sortie définitive du Royaume-Uni. Elle veut le beurre et l'argent du beurre, si vous voulez, ne plus dépendre de la politique commerciale européenne, mais conserver un accès privilégié au marché unique. Vous savez quoi? Eh bien oui, c'est vrai, elle tergiverse. Mais elle a une bonne raison, c'est qu'elle est emberlificotée dans un dédale politique. Un diplomate européen l'a décrit comme étant au centre d'un triangle. Imaginez, premier côté du triangle, la pression de la dominante radicale de son parti, les conservateurs. Brexit dur. Deuxième côté, la frange modérée de son parti qui veut, avec l'opposition travailliste, conserver une union douanière avec l'Europe. Troisième côté, Bruxelles qui exige des décisions rapides. Elle veut satisfaire son électorat pro-Brexit, mais elle veut aussi rassurer les grandes entreprises et la haute administration inquiète du Brexit. Donc, elle est écartelée, alors soyons un peu indulgents.
Voilà, vous êtes bien gentil avec elle, Jean-Marc. Mais enfin, tout ça, c'est de la tambouille politique. Sur le fond, est-ce qu'elle a des arguments ou pas?
Oui, elle en a, et soit dit en passant, sous prétexte que nous sommes de l'autre côté de la Manche, c'est quand même un peu facile de traiter le point de vue britannique avec mépris. Je vais vous donner deux exemples. Sur la période de transition, Londres souhaiterait donc un calendrier plus long. Ça se défend. Et à l'inverse, la volonté de la Commission européenne d'aller vite ne va pas de soi, en tout cas par principe. Sur la frontière entre les deux Irlandes, et là c'est un point essentiel, il faut mesurer combien la position prise hier par Michel Barnier est inadmissible pour Londres. Je vais essayer d'aller lentement pour qu'on comprenne bien. L'hypothèse privilégiée pour l'instant par Bruxelles, c'est que l'Irlande du Nord reste dans l'Union européenne parce que la séparer de la République d'Irlande au sud mettrait la paix en danger. Mais ça voudrait dire, de facto, que l'Irlande du Nord ne fait plus partie du Royaume-Uni. C'est inconcevable pour un Britannique, donc il est logique de voir Theresa May s'y opposer et il faut chercher un compromis. Ajoutons aussi que le bilan de Madame May est meilleur qu'on ne veut bien le dire. D'abord, l'économie britannique, contre toute attente, tient le coup. Croissance à 1,5, chômage à 4,4, le plus faible en Europe, soit dit en passant, et politique monétaire stabilisée. Et puis, Madame May est résiliente. Depuis un an et demi, la presse britannique l'a enterrée à plusieurs reprises. Mi-décembre encore, là, on disait « elle passera pas Noël ». Elle est toujours là.
Et si elle saute, alors il se passe quoi?
Ben précisément, c'est le principal argument en fait pour sauver le soldat. Mais si elle est contrainte à la démission, son parti, qui a la majorité relative, devra désigner un nouveau leader. Et il est probable qu'il soit beaucoup plus dur qu'elle. Pourquoi? Parce que plusieurs députés radicaux poussent non seulement le très tonitruant ministre des Affaires étrangères, vous savez Boris Johnson, le blond avec ses cheveux en pétard, mais plus encore la nouvelle coqueluche des Brexiteurs, Jacob Rees-Mogg. Alors lui, c'est la caricature, ultra-conservateur, opposé à l'avortement, multimillionnaire et accessoirement habillé comme il y a 50 ans. Et la base du parti pourrait bien le porter à sa tête.
Ça, c'est légal.
Ça, c'est légal, c'est vrai. Mais bon, quand même. La base du parti pourrait le porter à sa tête. Pourquoi? Parce que la base est plus conservatrice que les députés eux-mêmes. Et dans cette hypothèse, Brexit version hard, tension commerciale, migratoire, j'en passe. Vous allez me dire, on peut rêver de l'inverse. Un nouveau référendum avec un résultat opposé. Eh bien, c'est le bon mot, c'est un rêve. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et puis après tout, c'est simple. Les Britanniques ont voté, on sort, alors on respecte leur vote. Donc, dans ce contexte, Theresa May est pour l'instant la moins mauvaise des solutions. La question, c'est de savoir, en effet, si elle va se décider à prendre position sur les sujets clés, quitte à se fâcher au choix avec sa droite ou avec sa gauche. Cessez, si vous voulez, d'être Theresa Maybe pour devenir, je ne sais pas moi, Theresa Churchill.
Oh bah comme vous y allez, Jean-Marc. Merci beaucoup. Le Monde à l'envers, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Le 18-20 continue. Merci de rester avec nous. Le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne à suivre.